Bonjour. Nous sommes dans la joie d'être encore rassemblés ce matin, tous ensemble, dans la maison du Père pour le célébrer. Et nous sommes contents effectivement de revoir chacun, de revoir Patrick et Jacqueline, de revoir la princesse Nathalie. Vous savez qu'à la base, le roi Philippe, il voulait épouser Nathalie. Mais après, Mathilde est arrivée, et donc on a échangé, on a dit, bon, c'est pas grave, on a qu'à mettre Mathilde à la base. C'est une princesse, c'est pour ça. Bon, et donc nous allons ensemble méditer la parole de Dieu, et nous allons essayer de nous mettre à sa disposition pour recevoir ce qu'il veut nous donner ce matin, en ce mois d'août. Nous allons donc lire un texte, en plutôt deux. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, selon l'apôtre Jean. Et nous allons premièrement lire au chapitre 8, Jean chapitre 8. Jean 8, verset 12, pour commencer, il est écrit « Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Amen. Et le deuxième texte, toujours dans Jean, chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit « Tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. » « Je le crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. » Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles, et lui demandèrent, « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ?»« Si vous étiez des vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez aussi votre culpabilité, reste entière. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble autour d'un thème et ces lectures que nous avons faites vont nous aider à comprendre et approcher ce thème-là. Et le thème que nous allons partager, c'est le déclic. Le déclic. La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait parlé des Sadducéens. Les Sadducéens qui venaient poser une question à Jésus, une fausse question, une question un peu farfelue pour essayer de le tester, de le mettre à l'épreuve, de tester un petit peu ses connaissances. Et Jésus leur répond en leur disant, mais vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Alors vous êtes là en train de poser des questions qui n'ont ni queue ni tête, vous avez une interrogation qui n'a pas de sens, et effectivement vous êtes dans l'égarement, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas ce que les Écritures disent. Vous pensez savoir ce que les Écritures disent, vous avez une idée sur ce que la Bible dit, mais vous ne la connaissez pas, il leur dit, premièrement. Et puis deuxièmement, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Rappelez-vous que les Sadducéens, eux, ne croient pas... à la résurrection, ils croient pas aux anges, ils croient pas aux démons, ils croient en rien. Ils croient en rien, ça n'existe pas, tout ça, c'est ce monde-ci, et puis, après nous, les mouches. Et donc, Jésus, quelque part, vient les gifler, quelque part. Il les confronte en leur disant, mais vous qui avez l'intention de me surprendre, de me déstabiliser, en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous connaissez pas les Écritures, et vous connaissez pas la puissance de Dieu. Et autour de ce thème de déclic, Quand on lit la Bible, on voit en fait du début jusqu'à la fin tout un ensemble d'êtres humains qui vivaient leur vie, qui vivaient une existence parfois paisible, parfois plus agitée, une existence tranquille, jusqu'à ce qu'un jour, il se passe quelque chose. Ils avaient une voie de vie, ils marchaient dans une certaine direction, ou alors ils avaient certains types de pensées, ils avaient une certaine conception des choses, une certaine conception de la vie, jusqu'à ce qu'un jour, il se passe quelque chose pour eux, un déclic. Et tous, chacun d'entre nous, nous avons déjà vécu des déclics dans nos vies, où nous avons pendant des années vécu d'une certaine manière, et puis un jour, il se passe quelque chose, et paf, ça devient clair. Les choses que je ne comprenais pas, je commence à les comprendre. Les erreurs que je faisais, je commence à les identifier. Et tout à coup, en une seconde, la vie commence à changer complètement de direction. Alors que nous étions embourbés dans une certaine voie, dans un certain chemin, pour le dire simplement, il se passe quelque chose dans notre vie qui est un déclic pour nous. Pour certains, le déclic, ça a été la naissance d'un enfant. Vous avez des gens qui se sont toujours négligés dans leur vie, qui n'ont jamais donné aucune importance à leur personne, ou à leur vie, à leur avenir, à leur travail, etc., etc. Et puis, un jour, un enfant naît, et là, on se dit, mais non, mais waouh, la vie vaut quelque chose. Pour certains, ça peut être un décès. Une personne qui était vivante, avec qui on a marché, avec qui on a été heureux, et puis tout à coup, ben la personne décède et ça nous dit quelque chose, ça fait quelque chose. Ça peut être une trahison, ça peut être une rencontre, ça peut être une compréhension, ça peut être une lecture d'un texte biblique ou autre. Ça peut être une parole de quelqu'un. Mais tous, chacun d'entre nous, nous avons tous un jour vécu des déclics dans nos vies. Et nous en avons besoin parce que sans déclic, eh bien, nous errons toujours dans les mêmes voies sans jamais trouver le chemin qui est nécessaire. Pour les apprentissages, que ce soit apprendre des mathématiques, il y a des gens qui comprennent rien aux maths, et puis un jour, ils voient un professeur particulier qui leur dit, mais oui, mais ce que t'as pas compris, c'est que, en fait, quand on met X, c'est une inconnue. Ah, c'est ça, j'avais pas compris. Ça fait des années qu'elle est sur les bancs de l'école, elle a pas compris que X était une inconnue. Alors bien évidemment, le prof peut parler pendant 15 heures, elle comprend rien. On a parfois eu des déclics dans la conduite, quand on apprend à conduire une voiture. Hein, pendant des semaines, des mois, on apprend à conduire, on n'y arrive pas, on se dit, oh là là, c'est compliqué hein, de conduire. Et puis un beau matin, on rentre dans la même voiture, devant le même volant, et il s'est passé quelque chose. Je sais conduire. Pour la nage, c'est la même chose. On était tous stressés, on était accrochés au bord, et on avait peur et tout ça. Et puis, un beau matin, eh ben, on a compris qu'il suffisait de faire bouger ses jambes pour ne pas couler, et puis c'est tout. Un déclic. Et dans la Bible aussi, des hommes, des femmes ont vécu des déclics. Dans toute la Bible, on nous en parle, parce que c'est un sujet tellement essentiel quand on comprend l'importance d'avoir des déclics dans sa vie. Prenons le premier déclic de la Bible, c'est le déclic d'Adam et Ève quand ils ont péché. Et qu'un beau matin, il nous est dit dans Genèse 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le chemin, le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam et Ève, un beau matin, ont péché, oui. Ils péchaient, ils ont péché, quelques secondes se sont passées, et puis au matin, ils se sont rendus compte, mais on est nus, en fait. En d'autres termes, en fait, on ne plaît pas à Dieu, on a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, on est dans une situation misérable, on peut pas se présenter devant Dieu, il y a quelque chose qui a été coupé entre lui et nous. Et dès lors, quand ils ont eu ce déclic, ils ont été se cacher très loin de la face de Dieu, pour se dire, oulala, on peut pas s'approcher de lui, il nous fait peur. Alors qu'avant, ils avaient une relation tout à fait paisible avec Dieu. Dieu venait les rencontrer chaque jour pour discuter avec eux, pour parler, pour partager. Et puis, dès lors qu'ils ont péché et qu'ils ont eu ce déclic-là, ils se sont rendus compte qu'en fait, la relation entre eux et Dieu était brisée et ils ont été se cacher. Ils ont posé un acte dès que ce déclic est arrivé dans leur tête. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal, nous sommes loin de Dieu, nous avons mal agi. Le premier déclic de la Bible, mais il y en a plein d'autres. Pensons par exemple au déclic de Pierre. Pierre, le fameux apôtre qui renie Jésus. Il renie Jésus, une femme lui dit, bah oui, t'étais un disciple, t'étais aussi un des... Il dit, bah non, j'étais pas là, moi, je suis au courant de rien, d'ailleurs. Et voilà que la chose se passe. Et quand est-ce que Pierre a son déclic? Quand le coq chante. Au moment où le coq chante, Pierre se rend compte que Jésus disait la vérité. Il se rend compte qu'il a péché, il se rend compte qu'il a mal agi, il se rend compte qu'il suivait une mauvaise voie. Le coq qui chante. Tous, nous avons besoin de coqs qui chantent dans notre vie. Parce que sinon, nous allons dans des chemins qui parfois sont sans issue. C'est encore la meilleure des solutions. Si vous allez chez Jean-Pierre et Nathalie, vous verrez ce que c'est quoi une voie sans issue. Mais eux, comme ils sont un petit peu, ils ont quand même fait un rond-point pour faire semblant que c'est Jean-Pierre qui a dit, ouais, concilez-nous un rond-point, comme ça on fera semblant que, ben, il y a un chemin. Mais ça sert à rien, vous arrivez au fond de la rue, il y a le rond-point, vous revenez en avance. Ouais. C'est les folies de Jean-Pierre, ça. Mais donc, certains chemins que nous suivons sont des chemins sans issue. Certains d'autres sont des chemins pour nous détruire. Certaines situations sont des situations qui peuvent, en finalité, alors que nous ne le voyons pas, alors que nous n'avons absolument aucune idée, peuvent effectivement nous faire beaucoup de mal. Qu'est-ce que le déclic? Le déclic, c'est une prise de conscience d'une réalité ou d'une vérité. Quelqu'un vit pendant des années, pendant des jours, pendant des mois, pendant parfois toute une vie, selon une certaine conception qu'il a, une certaine vérité, une certaine réalité qu'il conçoit, et un jour, il prend conscience d'une autre vérité. Ou alors, quelqu'un vit dans l'ignorance d'une vérité, dans l'incompréhension d'une chose, et puis un beau matin, le déclic arrive et il comprend une chose qu'à la base, il ne comprenait pas. Une prise de conscience, c'est la vérité qui vient frapper à notre porte, le déclic. Alors qu'on était dans un mensonge, on était heureux de vivre dans un mensonge, on avait une idée qui n'était pas vraie, mais elle nous plaisait bien, n'est-ce pas que nous sommes comme ça? Il y a des idées, on sait tous que c'est faux, mais ça nous plaît bien. Là, vous connaissez cet exemple de l'orage qui est en train de frapper dehors, la pluie, les éclairs, le tonnerre, et on se cache en dessous de sa couette. Comme si le fait de se cacher en dessous de sa couette, ça allait aider à nous protéger du tonnerre ou des éclairs. On sait tous que si jamais l'éclair devait tomber sur la maison, c'est pas la couette qui nous protégerait. Et pourtant, ça nous plaît bien. Donc tous, en tant qu'humains, nous avons besoin de nous raccrocher à certaines vérités qui nous plaisent. Même si c'est un mensonge, mais c'est parce que ça nous protège. Et lorsque le déclic vient, c'est une prise de conscience puissante, profonde, qui vient changer notre attitude. La vérité nous explose au visage, le mensonge, l'illusion est effacée, est rejetée, et nous recevons en nous une vérité, une réalité, plus tout ce qu'elle implique. Nous avons tous besoin de vivre des prises de conscience. L'œuvre de Satan dans l'Église, c'est de détruire. Mais son œuvre de détruire, ce n'est pas de détruire en tuant les gens, ce n'est pas de détruire en les frappant, ce n'est pas de détruire en brûlant l'Église. Son œuvre, c'est de nous rendre inconscients. Nous sommes vivants, nous sommes là, mais il y a certaines choses desquelles nous n'avons pas de conscience. Et dans ce cadre-là, nous avons tous besoin de vivre un déclic. Alors, le principe, il est simple, on le connaît tous. On réfléchit, on a un déclic, on prend une décision et on agit. Je suis en train de réfléchir à une chose, ou je vis quelque chose, je parle avec quelqu'un, je suis dans une réflexion. Ensuite, il se passe quelque chose, il y a un déclic dans ma tête, dans mon esprit. Je prends une décision vis-à-vis du déclic que je viens de recevoir, et ensuite, je mets en action. C'est par exemple l'exemple qu'on connaît bien du fils prodigue. Le fils prodigue qui avait quitté la maison de son père, il était parti, et puis on nous dit qu'il s'est retrouvé dans un endroit où on nourrissait les cochons, et il s'est rendu compte qu'il était assis par terre, à côté des cochons, en train de se dire « Mais j'ai même pas le droit de manger leur nourriture, en fait. » Et la Bible nous dit « Étant rentré en lui-même, il se dit « J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre toi, accepte de me recevoir comme étant l'un de tes plus petits serviteurs. » Il s'est assis, il a réfléchi, il a eu un déclic en lui, il a pris une décision et il a posé une action. Un déclic merveilleux pour lui, parce que ça a complètement changé sa vie. D'autres déclics, le déclic des accusateurs de la femme adultère, vous la connaissez celle-là aussi. Cette femme adultère qui était accusée et tout le monde était venu en belle tenue pour aller dire « bah oui, bah, il faut la lapider, de toute façon, elle mérite rien d'autre que la mort. Hein, une femme comme ça, qui est infidèle, allez, franchement, premièrement, ils oublient qu'il fallait son mari avec. Mais bien plus, quand Jésus commence à écrire sur la terre, là, ils ont un déclic. Et la Bible nous dit, l'un après l'autre, du plus vieux au plus jeune, ils s'en allèrent. Ils étaient tous dans une attitude de la condamner, de la juger. Ils avaient une idée, une conception, dire, de toute façon, elle ne vaut rien, on veut sa mort et tout ça. Et puis un beau matin, ou plutôt à une belle seconde, le déclic fait qu'ils se rendent compte, ben non, ben en fait, nous aussi, on a fait pire que ça. Pourquoi est-ce qu'on dit les plus vieux? Parce que les plus vieux sont plus conscients de leur péché que les plus jeunes. Les plus jeunes, ils ont toujours l'impression qu'ils sont Superman, que ouais, moi le péché, ça m'atteindra jamais, je suis le meilleur, de toute façon, j'ai la foi et tout, voilà. Mais les plus vieux, ils savent bien que bon, dans la vie, on chute, on se relève. Et donc les plus vieux, tout de suite, ils se disent, en voyant toute leur vie déjà, en ayant compté tous leurs péchés, ils se disent, bon, on va y aller, hein, parce que je crois que y a des patates sur le feu. Ils ont eu un déclic. Le déclic des frères de Joseph. Les frères de Joseph qui l'ont vendu, qui ont été dire à son père avec la tunique, « Papa, un oiseau féroce a tué ton fils que tu aimais tant. » Ils ont été lui mentir. Comme des sales types. Mais alors qu'ils ont revu Joseph en Égypte, ils ont eu aussi un déclic. Et ils ont dit, ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Pendant des années, ils ont été tranquilles avec cette idée d'avoir vendu leur frère, d'avoir menti à leur père. Pendant des années, ils ont vu leur père pleurer d'un mensonge, alors qu'ils savaient très bien que Joseph était encore en vie. Ça ne leur a rien fait. Ou en tout cas, ils vivaient très bien avec cette idée-là. Et très souvent, bien évidemment, le monde dans lequel nous vivons est un monde aussi où nous vivons comme ça. Parce que quand notre conscience nous accuse, ce que nous faisons, c'est que nous faisons mettre plein de bruit autour de nous pour éteindre la voix de notre conscience. On est dans une génération où il y a toujours une télévision allumée dans les maisons, il y a toujours une télévision ou la radio ou quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui parle, il y a tout le temps un bruit quelque part, ça nous permet d'aller mieux et de ne pas laisser notre conscience trop nous parler, nous accuser et nous dire les choses que nous avons besoin d'entendre. Pendant des années, ils ont vécu comme ça, entêtés dans leur mal. Et puis un beau matin, paf, le déclic. Mais en fait, nous avons péché, et c'est pour ça que cette affliction nous arrive, nous avons mal fait, nous leur avons fait du mal. Alors bien évidemment, on s'imagine bien qu'il y a bien un moment pendant toutes ces années-là où ils se sont dit, c'était pas bien, machin. Mais pas au point de poser une action. Avoir des déclics et rester assis, ça sert à rien. Ce jour-là, ils ont un déclic et ils se rendent compte qu'ils ont mal fait. Le déclic de Pharaon. Pharaon qui a résisté combien de fois à la voix de Dieu. Il a résisté, il n'était pas d'accord. On lui a dit non, mais laisse aller notre peuple pour que nous allions adorer notre Dieu. Non, non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis un beau matin, il se dit non, j'ai péché. J'ai péché. Allez, allez servir votre Dieu. Le déclic de Pharaon. Le déclic de Judas aussi. Judas qui a vendu Jésus et qui aussi a eu un déclic. Mais malheureusement, celui-là, ça l'a amené beaucoup plus à aller se pendre qu'à autre chose. Judas, tellement de déclics dont nous avons besoin. Quelqu'un disait, et ça rappelle ce que Benoît disait tout à l'heure, la prise de conscience est comme le soleil. Lorsqu'il brille, les choses sont transformées. Lorsque nous prenons conscience, les choses sont transformées. Et le danger, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos vies, c'est de vivre dans l'inconscience. C'est de vivre sans se rendre compte de certaines réalités, de certaines vérités, de certaines choses. C'est de vivre dans une espèce de fermeture qui exclut la vérité et qui nous empêche de réellement recevoir dans notre cœur les choses dont nous avons besoin d'entendre. Qu'est-ce que peut nous apporter la prise de conscience? Premièrement, la prise de conscience nous amène à la repentance, bien évidemment. Vous connaissez Acte 2, verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Ils ont entendu le discours de Pierre et tout de suite ils ont dit, « Que ferons-nous? Qu'allons-nous faire maintenant que nous avons entendu ce message-là » Un déclic, l'ouverture à la repentance. Vous connaissez aussi le geôlier qui, après avoir vu la puissance de Dieu, s'est jeté aux pieds de Paul et Silas. Premièrement, le déclic nous ouvre la porte de la repentance. Lorsque nous prenons conscience de nos erreurs, de nos péchés, de nos égarements, nous pouvons demander pardon, nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons changer de vie, nous pouvons lui réclamer sa grâce, sa miséricorde, son pardon. Notre conscience peut être apaisée. Vous connaissez le psaume 32, « Heureux celui à qui la faute est pardonnée ». Deuxièmement, le déclic nous permet d'être restaurés. Vous savez bien, vous connaissez l'histoire de David, on en a déjà très souvent parlé ici. Quand David a fait tuer, enfin, entre guillemets, a fait tuer, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, a mis le mari de Bathsheba en évidence dans la guerre pour pouvoir avoir sa femme, mais bon, pendant les minutes qui ont suivi, il semble qu'il se sentait bien, lui. Il se sentait bien, il n'y avait pas de problème. Jusqu'au moment où le prophète Nathan est venu le rencontrer et lui raconte une parabole. Et puis David s'énerve et dit, ben oui, franchement, cet homme-là dont tu parles, cet homme qui a fait une chose aussi sale, aussi dégoûtante, il mérite seulement d'être tué. Un tel homme mérite la mort, dit-il. Et puis le prophète Nathan lui dit, ben non, cet homme-là dont je parlais dans la parabole, en fait, c'est toi. Et à ce moment-là, David se rend compte qu'il a péché. Pendant les minutes qui ont suivi, pendant les heures qui ont suivi, ça allait bien, sa conscience ne lui disait rien. Il n'avait pas pris conscience de son péché. Il n'avait pas pris conscience de la méchanceté de son acte. Mais quand cette parole vient le rencontrer, tout à coup, il se rend compte qu'il a mal fait et il peut demander pardon, il peut demander à être restauré par Dieu. Même chose pour Saul de Tarse, pour l'apôtre Paul, qui marchait aussi dans sa voie. Il était entêté dans son truc. Moi, je vais tuer tous les chrétiens, je serai le meilleur tueur de chrétiens. Jusqu'au moment où une lumière vient sur son chemin et où il se rend compte que, effectivement, ce qu'il fait, c'est persécuter un innocent, Jésus. Et là, tout de suite, il change de voie. Le déclic permet la repentance. Le déclic permet d'être restauré. Restauré, c'est-à-dire que ce qui est brisé dans ma vie, ce qui est brisé dans ma tête, ce qui est brisé dans mon histoire, ce qui est brisé dans ma famille, ce qui est brisé dans mes relations, puisse être restauré. Tant qu'on ne prend pas conscience, on ne peut pas être restauré. Tant qu'on ne prend pas conscience, on continue dans la même voie. Troisièmement, le déclic permet la découverte. Quand je prends conscience, je découvre des choses que je ne savais pas. Ça vous est déjà peut-être arrivé à vous, dans une situation quelconque, de vous rendre compte d'un droit que vous ne saviez pas que vous aviez. Par exemple, de dire « Ah ben, je ne savais pas qu'en tant que fils de cheminot, j'avais le droit d'avoir un abonnement moins cher. Ah ben, je ne savais pas qu'en tant que ceci, j'avais le droit d'aller là, j'avais le droit d'aller en thalasso. » Parfois, on ignore un droit qu'on a, une possibilité qu'on a. Parfois, on vit sans savoir que les graines pour mon chat que je vais chercher à Malines, ben, il y a un magasin dans ma rue qui vend la même chose. On ignore une certaine chose. Et on peut pas profiter de ce qui est autour de nous parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient de ce qu'il y a tout près, de ce qu'il y a en face de nous. Alors on cherche, on se casse la tête, on se pose des questions et puis on se dit « Ah ben ouais, c'est tout simple en fait ». Peut-être que ça vous est déjà aussi arrivé d'avoir l'impression qu'un truc est très compliqué. Et puis quelqu'un arrive et vous dit, ben oui, ben il suffit de faire ça, 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 ça. Ah, il y avait que ça? Ben oui, il y avait que ça. La prise de conscience nous permet de découvrir des choses, permet de faciliter notre vie. Lamentations 3, versets 40 à 41 nous dit, recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Recherchons nos voies, sondons nos voies, sondons nos chemins et retournons à l'Éternel. Quand je sonde mes chemins, quand je sonde ma vie, quand je regarde ma vie, je peux retourner à l'Éternel. Quatrièmement, le déclic permet un renouvellement du feu dans nos cœurs. La prise de conscience nous permet d'avoir un feu nouveau. Rappelez-vous, Francis en a parlé la semaine passée, des disciples d'Emmaüs, qui étaient tout tristes sur le chemin, et puis qui lui disent « Mais tu es vraiment le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Tu es le seul à savoir que Jésus, ce prophète, est mort, etc. » Et puis Jésus leur explique les Écritures. Il leur explique le sens de tout ça. Il leur explique pourquoi c'est arrivé. Et quelque part, à un moment donné, leur espoir renaît. Il va partager le pain avec eux. Et au moment où ils ont le déclic, il disparaît. Mais ils pourront dire après, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quand Jésus leur a expliqué les Écritures, quand Jésus leur a fait comprendre leur environnement, leur a fait comprendre le plan de Dieu, le feu de leur cœur a commencé à renaître, ils ont vu une nouvelle espérance, parce que ils n'étaient plus dans, entre guillemets, leur mensonge. C'était pas un mensonge mauvais, mais en tout cas, ils vivaient dans une illusion. L'illusion que c'était une défaite. L'illusion que la mort de Jésus était la fin de tout. L'illusion que le désespoir pouvait prendre le dessus. Mais quand Jésus vient leur expliquer, leur dire la vérité, leur ouvrir les yeux sur les Écritures et sur la puissance de Dieu, leur cœur commence à renaître. Parfois, nous aussi, nous vivons avec des mensonges. C'est fini pour toi, tu n'y arriveras pas. De toute façon, dans ta famille, tout le monde est pourri. Dans ta situation, il n'y a pas de meilleur, accepte seulement. Parfois, c'est ça, nous sommes accrochés à des demi-vérités, des petites choses, comme ça, c'est tout ce qu'on nous donne, on prend ce qu'on nous donne. Mais quand Jésus vient nous apporter un déclic pour nous dire la vérité sur les choses, pour nous faire sortir de l'illusion du désespoir, l'illusion de la défaite, nous pouvons recommencer à espérer, nous pouvons avoir un feu nouveau dans nos cœurs qui se lève. Ce qui rend nécessaire le déclic, la prise de conscience, c'est que nous vivons parfois simplement dans l'aveuglement spirituel de certaines choses. L'aveuglement spirituel, comme les Sadducéens, ne pas être conscient de certaines réalités spirituelles, vivre comme si elles n'existaient pas. Nous pouvons vivre dans l'aveuglement, nous pouvons vivre dans l'inconscience. Nous pouvons vivre dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Nous pouvons vivre dans la torpeur. La torpeur, c'est cet engourdissement général, psychique. On est lourd, on est anesthésié, on ne perçoit pas les réalités, on est comme mort, on est comme fermé, on est comme insensible à tout ce qui se passe autour de nous. Parfois, nous vivons dans la torpeur. Plein de choses peuvent causer ça, mais nous vivons inconscients. Inconscients parfois même de la gloire de Dieu. Inconscients de sa sainteté, inconscients de sa présence au milieu de nous. Parfois, nous pouvons être inconscients parce que nous manquons de compréhension des choses. Nous avons parfois besoin qu'on nous explique les choses. Rappelez-vous, Philippe qui va voir l'eunuque éthiopien et qui lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Tant que tu ne comprends pas ce que tu lis, tu ne peux pas prendre conscience. Tant que tu ne comprends pas, tu ne peux pas complètement saisir la vérité. Comprends-tu ce que tu lis ? Alors, bien-aimés, ne pouvons-nous pas, nous aussi, aujourd'hui, demander à Dieu des prises de conscience ? Nous en avons besoin. Si tant de gens dans la Bible en ont eu, c'est que certainement, nous aussi, il y a un message pour nous. Il y a certainement quelque chose dont tu dois prendre conscience. Il y a certainement une vérité que tu ignores ou une réalité que tu nies. Il y a certainement quelque chose dont tu dois prendre conscience. Parfois, ça peut être prendre conscience de mon entourage. Il y a des gens qui vivent sans être conscients de leur entourage. C'est pas forcément de l'égoïsme, c'est que on vit chacun pour soi. On voit ça souvent dans les familles où il y a de la souffrance. Dans les familles où il y a de la souffrance, ce qui se passe, c'est que chacun se referme dans sa propre souffrance. Et on ne se comprend plus parce que je souffre dans mon coin, tu souffres dans ton coin, et quand on se parle, ben on ne voit que sa propre souffrance. Prendre conscience de mon entourage, des gens qui sont autour de moi. Prendre conscience des besoins des membres de mon entourage. Parfois, nous vivons mal avec les autres parce que nous n'arrivons pas à comprendre leurs besoins. Si j'ai des besoins, ceux qui vivent avec moi ont aussi des besoins. Peut-être que leur attitude est justement due au fait que leurs besoins ne sont pas rencontrés. Quels sont les besoins de ceux qui m'entourent ? Quels sont les besoins de mes frères et sœurs à l'église ? Prendre conscience des besoins de ceux qui nous entourent. Prendre conscience des gens qui sont autour de nous. Prendre conscience parfois de ce que je fais subir aux gens qui vivent autour de moi. Bien évidemment, quand on n'est pas conscient de soi-même, on est toujours étonné de tout. On est toujours étonné de tout. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Et pourquoi est-ce qu'il est fâché contre moi ? On est souvent comme ça dans notre vie, toujours étonné de tout. Moi, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'on n'est pas conscient, on agit, on parle, on vit, mais on se rend pas compte. Prendre conscience aussi, par exemple, de l'importance de la prière. L'importance de la prière. Si l'Église ne prie pas, c'est pas parce que on ne sait pas prier, c'est pas parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on est trop occupé. On ne prie pas parce qu'on ne comprend pas l'importance de la prière. Quelqu'un qui comprend l'importance de la prière, il va prier. C'est évident, c'est logique pour tout le monde. Tous ici, il y a des choses qui sont importantes, mais nous prenons le temps, nous investissons pour les choses qui sont importantes. C'est important d'être en ordre pour le fisc, de payer ses impôts. Mais tout le monde prend ses feuilles, s'assied sur sa table tout le dimanche après-midi et fait ses impôts. C'est important d'aller travailler, ben on va tous travailler. Quand on a conscience de quelque chose, de l'importance de quelque chose, tout de suite. Et donc, ce que Satan fait pour arrêter l'Église, c'est de nous anesthésier, de nous mettre dans un état d'inconscience. Je ne suis pas conscient de l'importance de prier. Je ne suis pas conscient de l'importance du culte. Je ne suis pas conscient. Et comme je ne suis pas conscient, je vais bien, je me sens bien. Mais comme le dit le texte que nous avons lu, en réalité, je suis aveugle. Vous savez qu'un aveugle, on en voit à la gare très souvent. C'est vrai, hein, on voit souvent des aveugles qui marchent et tout. Un aveugle, il ne voit pas la réalité, mais la réalité est là. C'est pas parce que je suis aveugle que la réalité disparaît. La réalité, je ne la vois pas, je ne la saisis pas, mais elle continue à avancer. Quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas conscients des réalités spirituelles, elles ne disparaissent pas. Quand les Sadducéens disent « il n'y a rien après la mort, on s'en fiche », c'est pas pour ça que Dieu va retirer l'enfer en disant « ben comme eux, ils n'y croient pas, ben on s'en fiche ». La réalité, elle continue à être là, même quand on n'en est pas conscient. Prendre conscience de nos erreurs aussi. Prendre conscience de la mauvaise compréhension que nous avons d'un sujet. Prendre conscience parfois même de notre méchanceté, ça peut arriver. Prendre conscience du combat spirituel. Vous voyez que le serviteur d'Élisée, à un moment donné dans la guerre, vous vous rappelez certainement ce texte de 2 Rois chapitre 6, où Élisée prie, il est écrit, « Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le serviteur d'Élisée n'était pas conscient qu'il y avait une armée d'anges autour d'eux pour les secourir dans la bagarre. Alors il était découragé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va jamais y arriver. Et Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie la réalité spirituelle, pour qu'il voie la vérité. Et ça dit, c'est un non, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon, il n'y a rien du tout. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Quand je vois, je peux être encouragé. Quand je vois, je peux mettre ma confiance en Dieu. Mais quand je ne vois pas, quand je suis inconscient, prendre conscience du combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Il y a des anges, il y a des démons. Il y a une guerre qui se joue dans ce monde. Et nous, parfois, nous sommes chrétiens, mais nous sommes complètement inconscients. Nous vivons comme si, tout plane. Et forcément, nous manquons notre vocation parce que nous ne sommes pas conscients. Ça peut être aussi prendre conscience des mauvaises habitudes que nous avons héritées de nos pères. C'est la Bible qui le dit aussi. Ces mauvaises mœurs que vous avez héritées de vos pères. Vous avez toujours fait comme ça, parce que vous l'avez reçu de vos pères, mais c'est une mauvaise habitude. Ça peut être bêtement la manière de changer une roue, ça peut être la manière de conduire, ça peut être plein de choses. Mais nous pouvons répéter des choses que nos pères ont mal fait, mais comme on nous a toujours dit que c'était comme ça, bon, on le fait toujours. Et il y a des gens que je rencontre qui bénissent Dieu de ce qu'un jour, Dieu a ouvert leurs yeux pour qu'ils comprennent que ces habitudes qu'ils avaient reçues n'étaient pas bonnes. Et ils ont pu complètement changer. Je parlais avec un frère qui disait que pendant des années, il a détesté son père. Parce que il a vraiment détesté son père. Et c'était vraiment la grande bagarre. Il considérait son père comme étant la pire des pourritures, etc., etc. Et puis un jour, il a regardé un film, bêtement, hein, comme ça, sans se douter. Il s'est simplement assis dans son... Il a regardé un film. Et puis, dans le film, c'était encore une histoire de père et fils, comme il y en a plein. Et en regardant le film, il s'est rendu compte à quel point lui-même, il était un très mauvais père. Et il dit, là, ça a été fini en une seule seconde. Ça a été le déclic. J'ai compris que je n'avais pas le droit d'en vouloir à mon père. Quand moi, je suis un si mauvais père. La prise de conscience des habitudes que nous avons héritées de nos pères, des mauvaises choses qui sont en nous. La prise de conscience, parfois, de l'importance du pardon dans ma vie. Je peux vivre avec plein de rancunes, plein d'aigreurs, plein d'amertume. Vivre avec mon petit chariot d'amertume, de rancœur. Ah ouais, yeah, 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 la vie est belle et tout. J'ai mon amertume, j'ai ma rancune, il est là, on est toujours ensemble, on communie ensemble, amertume, rancune, aigreur. Mais j'ai besoin d'un déclic. J'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux sur tout ce que la rancune fait dans ma vie. À quel point est-ce qu'elle détruit mon cœur? À quel point est-ce qu'elle détruit mes relations? À quel point est-ce qu'elle détruit ma vision de la vie? J'ai besoin d'un déclic. J'ai besoin que Dieu vienne me gifler pour me montrer l'importance du pardon. Pour mon bien. Prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons aussi. Prendre conscience du fait que Jésus revient bientôt, qu'il y a des priorités pour ces temps-ci. Nous avons tellement de choses desquelles nous devons prendre conscience. Et encore une fois, c'est ça ce qu'on appelle quelque chose de pernicieux, c'est quelque chose de tellement discret, l'inconscience. C'est rien de mal. Vous voyez, c'est pas comme la méchanceté. Quelqu'un qui est méchant, vous le voyez, faire du mal à quelqu'un, c'est que, vous voyez, il y a des choses palpables. Du mal, il y a des mâles qui sont saisis. Si, dans l'église, on commence à tous se frapper à la fin du culte, on va dire, ouais, je me bats, mais bon, il y a un problème. Si, on se rend compte que, quand on rentre chez nous, on se bat entre nous à la maison, bon, on va voir qu'il y a un problème. Mais l'inconscience, comment est-ce qu'on va le voir? On le voit pas puisqu'on est inconscient. C'est pernicieux, c'est tout petit, c'est tout minuscule. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, est en train de dire, celui qui me suit, il prendra conscience. Il aura la grâce de ne pas rester dans ces ténèbres. Vous savez, il y a les ténèbres du monde, et puis il y a mes ténèbres à moi. Mes illusions, mes mensonges, mes trucs, mon petit monde qui n'existe pas, mais qui me plaît bien. Et quand Jésus vient dire « Je suis la lumière du monde », il vient éclairer notre vie, il vient éclairer nos pensées, il vient éclairer ce que nous sommes. Et nous pouvons avoir des déclics salutaires. C'est salutaire, ce n'est pas juste pour s'amuser, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est parce que c'est bon pour moi. Tous, chacun d'entre nous, dans cette salle, pour notre part, nous avons besoin de prendre conscience de quelque chose. Alors la prise de conscience, ça peut être une grâce, une pure grâce de Dieu, qui un beau matin m'ouvre les yeux, par grâce, parce qu'il a voulu, parce que c'est son temps, c'est le temps qu'il a décidé. Mais la prise de conscience, elle peut aussi passer par mon action à moi. La prise de conscience, elle peut passer par ce que je fais pour ne plus rester anesthésié par mes mensonges, par le mal. Pour terminer, voyez ce texte que nous avons lu dans Jean chapitre 9 où on nous relate la guérison d'un aveugle de naissance. C'est l'aveugle de naissance, il a toujours été aveugle. Et voilà que Jésus vient le guérir. Et puis que les pharisiens veulent lui poser des questions en disant, bah oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? Qui t'a guéri? Machin. Et puis à un moment donné, Jésus dit, je suis venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il est venu pour que nous voyions, pour que tous ceux qui le suivent puissent voir, puissent être conscients, puissent être face à la réalité, face à la vérité. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, le chemin, nous vivons avec lui tous les jours. Jésus, la vie, nous l'avons reçu, la vie éternelle. Mais Jésus, la vérité, est-ce que nous vivons tous les jours avec Jésus, la vérité? Jésus, la vérité, me fait du mal, mais Jésus, la vérité, me fait tellement de bien. Parce qu'il apporte le déclic dans ma vie. Et pour finir, verset 41, « Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez aussi, votre culpabilité reste entière. » Ne prétendons pas que nous voyons. Demandons à Dieu sa lumière. À l'entame de ce culte, on a parlé de Dieu comme un soleil. Ne disons pas « je vois ». Ne disons pas « je me rends compte ». Ne disons pas « je suis conscient ». Prions. Demandons à Dieu de nous éclairer, de nous montrer la voie. Il y a tellement de choses dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église, dans notre vie familiale, desquelles nous devons prendre conscience. Et quand je prends conscience, je peux me repentir, je peux être restauré, je peux avoir de la joie dans mon cœur, je peux quitter mes mauvaises habitudes, je peux devenir une nouvelle personne. Nous avons tous un jour pris conscience en donnant notre cœur à Jésus. Mais après ça, encore aujourd'hui, dans notre marche de tous les jours, nous avons besoin de prendre conscience. Que Dieu nous donne des déclics dans nos vies, des déclics dans nos familles, des déclics salutaires pour nos âmes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as envoyé Jésus, la lumière du monde. Ce monde qui est, c'est vrai, ténèbres, obscurité, mensonges. Nous avons la grâce de suivre Jésus, la lumière du monde. Seigneur, que ce Jésus que nous aimons, ce Jésus que nous servons, ce Jésus qui vit en nous par ton esprit, puisse nous éclairer. Nous éclairer, nous illuminer pour que nous puissions prendre conscience. Prendre conscience de toi, de ta gloire, de ta sainteté, de ta bonté, de ton amour. Prendre conscience de qui nous sommes, prendre conscience de nos erreurs, prendre conscience de nos mauvaises voies. Seigneur, fais-nous sortir de cette anesthésie, fais-nous sortir de l'inconscience, chacun pour sa part. Nous t'en prions, viens nous éclairer, viens nous rencontrer, viens nous donner ces déclics qu'ont vécu les hommes de la Bible, les hommes et les femmes de la Bible. Donne-nous aussi ces déclics en nous. Nous avons tellement besoin de toi. Nous ne prétendons pas que nous voyons, Seigneur. Nous ne prétendons pas que nous avons la vie, nous ne prétendons pas que nous voyons clair, nous prétendons que nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous prétendons que nous avons besoin que tu ôtes la boue qu'il y a sur nos yeux. Nous avons besoin que tu nous ôtes notre cécité, notre aveuglement, pour que nous puissions te voir, pour que nous puissions voir les autres, pour que nous puissions nous voir, pour que nous puissions voir ta réalité, pour que nous puissions voir la vérité, pour que nous puissions voir nos devoirs. Et que, Seigneur, nous puissions marcher dans la lumière de ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu ne nous condamnes pas, tu ne nous juges pas. Tu ne nous frappes pas méchamment. Et ce jour, tu ne nous condamnes pas. Tu nous encourages, tu nous fais du bien. Seigneur, éclaire-nous, nous t'en prions. Amen.